par étape. Tu mentionnes d'abord le cas de l'Abitibi.
Oui.
Et ensuite, celui de, du... C'est quoi?
Lungava.
Lungava, c'est ça.
Jusqu'au détroit du Tson.
C'est ça, c'est ça.
C'est deux tiers du territoire du Québec. Puis c'est les emprises d'Hydro-Québec, finalement, là, pour l'hydroélectricité.
Ouais.
Et puis donc, l'hydro... C'est comme si la nationalisation de l'hydroélectricité prenait la suite des institutions, des religieux qui ont été
oui, bien sûr.
C'est ça, qui ont été, c'est eux qui ont eu
les premiers agents colonisateurs.
Exactement ça. Et c'est ce qui a permis au Québec de prendre possession de ces territoires-là à cause de l'effectivité. Ils étaient sur le territoire.
Oui, parce que vous comprenez, en droit international public, vous n'êtes considéré maître ou reconnu maître d'un territoire que dans la mesure où vous en avez le contrôle effectif.
C'est ça.
C'est une notion extrêmement importante parce que lorsque on va vérifier si un pays répond aux exigences pour être reconnu, on va examiner de quelle façon il occupe le territoire qu'il revendique.
Ça a fait partie d'une étude en 1995. Je ne sais pas si vous...
Oui.
Sur le territoire maritime et terrestre du Québec.
C'est ça.
OK? Et c'est là qu'ils évoquent toutes ces choses-là, parce que là, ils ont commencé à penser l'État, et puis dans le contexte d'un changement de statut possible et des questions afférentes. OK?
C'est ça.
Bon. Alors donc, là, on voit que l'Hydro-Québec, en étant nationalisé, grâce à une élection référendaire...
En 1962, oui.
C'est ça, qui a été gagné à 56%. C'est la seule fois, à ma connaissance, qu'une élection a été gagnée à 56%, en tout cas dans l'histoire récente du Québec.
Québec. Il faut dire que quand même, là encore, c'est important de se replacer dans le contexte. En 1962, au Québec, il y a juste deux partis. Il y a le Parti libéral puis l'Union nationale. Il n'y a pas de tiers parti comme aujourd'hui. Donc, le vote se divise tout le temps de façon assez... avec des valeurs assez élevées, aux alentours de 50 %. Et puis, il n'y a pas à se surprendre de ça, mais malgré tout, il est quand même important de comprendre que sur un enjeu aussi important que celui de la nationalisation de l'hydroélectricité en 1962, le Parti libéral, sous l'impulsion de Jean Lesage et de René Lévesque, qui était finalement le propagandiste du gouvernement sur la question de la nationalisation de l'électricité, avait vraiment fait une campagne incroyable. Et replaçons-nous là, dans le contexte du début des années 60. Vous comprendrez que au début des années 60, l'idée d'une nationalisation, c'était
le Cuba du Nord.
Drôlement audacieux, merci. C'était l'époque où, pour moins que ça, on vous traitait de communiste. Et puis Duplessis, lui, il avait d'ailleurs la fâcheuse manie de créer toutes sortes d'embûches pour... les communistes, pour les témoins de Jéhovah et autres. Et quand, vous savez, souvenez-vous là, du folklore politique de l'époque, les curés en chair qui disaient, souvenez-vous que l'enfer est rouge et puis le ciel est bleu. Hein? Et c'était pour rappeler que les propositions du Parti libéral n'étaient rien de moins que sataniques. Là. Alors, vous voyez, dans un climat pareil, arriver à faire accepter par une proportion aussi importante de la population que 56 %, c'est énorme.
Oui.
C'est parce que...
C'est décisif.
De l'autre bord du 56, il y a un 44. Autrement dit, entre 56 et 44, il y a un écart...
De 12.
De 12. C'est beaucoup, là, beaucoup.
Oui, c'est ça. Puis on se souvient que deux ans auparavant, les libéraux avaient gagné par la peau des dents.
Exactement.
Et qu'en 1962, c'est René Lévesque qui a imposé juste un thème à l'élection.
L'élection, c'est
un
ça.
Thème. Il n'y a pas de programme avec 5, 6 points, 12 points. Non, un thème, c'est
et
oui
le
ou
thème,
c'est non.
C'était « Maître chez nous ».
Ben oui, c'est ça.
OK. Alors, imaginez là, qu'avec un seul thème comme celui-là, là, dans une élection qui revêtait toutes les caractéristiques d'un référendum.
Absolument.
On a réussi à aller chercher 56 % des voix.
Donc.
Alors, Il y a des leçons, c'est plein de leçons, cette expérience-là,
oui.
sur le plan politique, mais il ne faudrait pas qu'on s'égare trop dans la politique et qu'on revienne assez rapidement sur l'Hydro-Québec.
Mais c'est une proposition d'État,
voilà.
de politique d'État, à laquelle une population qui était quand même peu éduquée pour l'époque ont compris l'importance.
Ils ont saisi l'importance
de l'enjeu. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Ils disent « Oh, là, c'est... » Il y a quelque chose qui se passe, là. C'est un levier.
Alors, bien sûr, l'évêque était un pédagogue extraordinaire.
Ah ouais,
on le revoit...
On lui doit.
On le revoit avec son mégot de cigarette à la bouche, parce qu'à l'époque, ça se faisait ça à la télévision, là. C'était des choses qui étaient acceptées. Et puis son tableau, puis sa craie, puis... Il expliquait ça, lui, en trois coups de cuillère à peau. Et puis, c'était convaincant. Et puis... Il est parvenu à vendre cette proposition-là aux Québécois qui, mon Dieu, quand on regarde les résultats, s'en sont fort bien portés. Merci.
Bien, c'est la plus grande décision économique que le Québec a prise.
Jamais prise.
Oui, c'est
Alors,
ça.
Et il n'a eu qu'à s'en bien porter par la suite, à s'en féliciter par la suite.
Ah oui.
C'est pourquoi, à l'heure actuelle, lorsqu'on voit les gestes qui sont posés depuis quelques années pour démanteler Hydro-Québec, puis il s'est fait d'une façon sournoise, en douce, par en dessous, à l'insu de tout le monde.
On est passé de la révolution tranquille à la dépossession.
Possession tranquille, comme d'ailleurs.
À mettre chez nous, à traître chez nous, là.
oui.
oui, c'est carrément ça.
Oui,
Alors,
oui.
Juste pour revenir, juste pour dire que l'Hydro-Québec, donc la nationalisation, va structurer le territoire, va nous en donner une possession effective. Vous savez que tout de suite après la nationalisation d'électricité, en Ongava, les compétences du Québec étaient assumées uniquement par le fédéral.
Oui.
Le Québec n'était tout simplement pas présent. Je parle de l'État du Québec. Okay?
Il y avait...
Alors donc, c'est pas rien.
Et il y avait également les oblats qui étaient très présents.
Ben oui. Et puis là, l'Hydro-Québec était géré complètement en anglais.
Oui.
OK? Transformation.
Ah, mon Dieu, alors, en 1962, c'est d'ailleurs...
Méchant choc, là.
Un gros choc. Imaginez. Parce qu'il faut comprendre que c'est un centre de décision majeur qui était administré entièrement en anglais et qui, en l'espace de quelques années, mais d'un nombre très restreint d'années, va se mettre à opérer en français. Et ça a des conséquences énormes. Ça a des conséquences pour la rue Saint-Jacques, hein, parce que les nouvelles obligations émises par l'Hydro-Québec pour le financement d'Hydro-Québec, on ne donne plus ça nécessairement à la même gang de courtiers anglais qui contrôlaient la mise auparavant.
Les trusts.
Alors, c'est ça.
Les fameux trusts.
OK. Et puis, d'un seul coup aussi, les contrats pour les bureaux d'ingénieurs, qui étaient tous des bureaux d'ingénieurs anglophones, il faut bien comprendre que même des bureaux comme, à l'époque, surveillés Nenninger et Chênevert, ça fonctionnait largement en anglais.
Ouais.
Alors, par la même occasion, à partir de 1962, il va s'opérer un virage assez exceptionnel et dont l'un des effets va être qu'il va y avoir une migration d'une proportion importante d'anglophones vers l'extérieur, vers l'Ontario, essentiellement. Malheureusement, je le dis malheureusement sur le plan pédagogique, éducatif, très peu de gens sont conscients que finalement, le premier mouvement d'exode des anglophones vers l'Ontario correspond à cette époque-là. Puis en même temps, ils sont peu conscients que jusqu'à 1960, Montréal était la métropole du Canada. Et que du fait du départ de l'exode d'un certain nombre d'anglophones vers Toronto, c'est Toronto qui va se consolider et qui va devenir par la suite la métropole du Canada.
Oui.
Alors, mais il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que sur le plan du contrôle de nos affaires, de mettre chez nous, comme disait l'évêque, on a gagné sur toute la ligne.
Oui, oui, parce que les francophones ont monté les échelons dans l'échelle économique.
C'est
et
ça.
Et là, les autres, ils se sentaient... on va aller chercher des opportunités ailleurs.
C'est ça.
C'est ça qui est arrivé. Maintenant, à l'époque, c'était très audacieux qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'il y avait peut-être 500-600 ingénieurs diplômés au Québec. alors que là, il y en a plus que 60 000.
Okay? Ouais, ouais.
Alors là, prendre ce projet-là, puis avec peu de moyens, puis où est-ce qu'il est l'argent? Mm-hmm. Hein? Ou, bon, les gens connaissent l'anecdote, là. Les trusts anglo-saxons, Montréal, canadiens, n'étaient pas pour financer Hydro-Québec. Ils leur ont dit, vous ferez jamais ça. Ouais. Et donc, Jacques Parizeau, il est parti avec son plan d'affaires, puis il s'en allait à New York.
Oui, puis il l'a fait financer là.
C'est ça, exactement. Exactement. Et là, ça débloque, OK?
Là,
alors,
ça...
on voit l'audace de l'époque, hein?
Oui.
Alors qu'aujourd'hui, là, avec environ, en tout et partout, 500 milliards de capitaux qui sont propres au Québec, plus de 60 000 ingénieurs, on n'est pas capable de faire tourner un hélice au bout d'un poteau. Faut faire affaire avec le privé.
Oui, oui, oui.
Allez-y.
Oui. Alors là, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Vous savez, c'est l'époque où, dans le milieu des années 70, quand l'évêque arrive au pouvoir, il parle de Hydro-Québec comme le navire amiral de l'économie québécoise.
Oui, c'est une expression qui a été reprise par Pierre-Carl Péladeau.
Oui, et à fort juste titre, je crois.
Oui, il y a sûrement des plans.
Oui, il y a sûrement des plans. Alors, il faut comprendre que c'est un levier économique extraordinaire. Et effectivement, il a joué pleinement ce rôle-là. Et il a joué pleinement ce rôle-là jusqu'à, disons, le milieu des années 90. En fait, curieusement, à partir de la fin... En fait, c'est dans le deuxième mandat de Robert Bourassa. Donc, Robert Bourassa est élu en 85. Il va être réélu, je pense, ensuite en 88 ou en 89.
Oh, 89,
hein. 89. Et puis, Bourassa, lui, va rester là quelques années. Puis, finalement, pour des raisons de santé, il est obligé de s'en aller. Et c'est là que, évidemment, le gouvernement Parizeau va prendre le pouvoir. Mais dans cette période de la deuxième période Bourassa, Robert Bourassa lui-même était extrêmement intéressé, même c'était un ardent propagandiste du développement du potentiel hydroélectrique du Québec. Et c'était son bébé. L'abbé James était son bébé. Il y tenait comme à la prunelle de ses yeux.
Il était dans la continuité
du
Parti libéral de 60 là-dessus, sur ce volet-là,
il l'était complètement. Sauf que tranquillement, il a commencé à avoir autour de lui, surtout dans le second mandat, des grenouilleurs qui ont commencé à suggérer que, peut-être qu'il faudrait repenser l'idée du monopole d'Hydro-Québec. Hein? C'était l'époque où on commençait on le voyait en Europe, il commençait à y avoir de la privatisation des services publics. Et on se disait, et même moi, je suis tombé dans ce piège-là, je l'avoue bien candidement.
Ah ben, vous l'avouez, là,
Oui, en 1994 ou 13, quand j'étais président de l'Association des manufacturiers, j'avais suggéré qu'on puisse, parce qu'à l'époque, là, il faut se rappeler que le gouvernement, la dette québécoise grimpait d'une façon phénoménale, les déficits étaient énormes, pensez que... En 1993-94, le déficit avoisinait les 4 milliards de dollars.
94, 6 ouais. milliards.
Qui
était 3,5% du PIB, qui ouais. serait 11 milliards actuels.
OK. Le 6 milliards, ça a été la version corrigée une fois qu'on est arrivé au pouvoir.
C'est ça,
PQ,
exactement
là.
Ça.
C'est ah, ça.
OK.
Et le Parti libéral avait annoncé 5 milliards, puis Parizeau, quand il est arrivé, il a dit non, c'est pas 5 milliards, c'est 6 milliards. Bon. Je me souviens, j'étais assis à la table autour
témoin
du Conseil
de la
des
scène.
Ministres. J'étais témoin de la scène quand Parizeau a annoncé l'ampleur du déficit laissé par les libéraux.
Parti de l'économie.
Hein?
Le Parti de l'économie.
Oui, mais enfin,
selon
quand même,
Michel David.
Écoute, là, soyons quand même un petit peu réalistes. Et puis disons que Parizeau avait malgré tout quand même gonflé un petit peu le déficit de quelques centaines de millions pour pouvoir avoir plus de manœuvres. Dans l'année du référendum. Tu sais, je veux dire, bon. Mais ça, c'est de bonne guerre. C'est des choses qui se font, et puis, fallait s'attendre à ça. Alors, malgré tout, il faut comprendre là, que la situation d'endettement, le rythme de l'endettement du Québec à ce moment-là était catastrophique. Rien de comparable avec la situation d'aujourd'hui où on s'endette à peine d'un milliard, le déficit, puis on essaie à...
Aujourd'hui, il est à 0,07.
Vous vous rendez compte, là, on est à 0,7.
À peu près 5 fois moins important.
Bon, puis tiens, aujourd'hui, justement, on a...
On a une dramatisation totale.
Totale, complètement ridicule.
Ouais.
Et pendant ce temps-là, l'Ontario, elle, connaît une crise épouvantable. Et puis, on a mis justement en ligne aujourd'hui sur le site vigile.net. Vous pourrez aller voir ça. Vigile.Québec, excusez-moi encore une fois. Vous pourrez aller voir ça. C'est un message qui a été tweeté par le journaliste que j'aime bien de Radio-Canada. Il y en a pas beaucoup que j'aime bien.
Sébastien Beauvais.
Sébastien Beauvais. Et dans lequel il présente il a extrait un graphique de Moody's qui montre en parallèle l'évolution de la dette de l'Ontario et de l'évolution de la dette du Québec. Et on voit très clairement à quel point, depuis une dizaine d'années, c'est la dette de l'Ontario qui est en pleine explosion. Alors, quand ils sont rendus à faire des déficits de l'ordre de 15 à 16 milliards, là, ça commence à
être... Ça va vite, hein?
Ça
grimpe vite.
OK. Alors... revenons quand même à Hydro-Québec. Il faut comprendre que c'est des années où, donc en 93, moi j'ai suggéré, alors que j'étais président de l'Association des manufacturiers, puis que l'endettement était du Québec était franchement un sujet de grande préoccupation, parce que nécessairement il avait une incidence sur la fiscalité, et que la fiscalité, il faut toujours avoir à l'esprit qu'elle doit être concurrentielle si on veut garder les gens chez nous. J'avais suggéré qu'on privatise 10% du capital d'Hydro-Québec. Ça voulait dire quoi? Et c'était pourquoi? Bon, parce qu'on pouvait, compte tenu de la valeur au livre d'Hydro-Québec, on pouvait à ce moment-là déjà rembourser une proportion importante de la dette. J'avais suggéré qu'on en rembourse un tiers, qu'on utilise un tiers pour régler nos problèmes dans le domaine de la santé, puis un tiers... dans le domaine de l'éducation. On aurait pu faire ça comme ça et ça aurait été une situation qui aurait été avantageuse. Mais c'est Bourassa lui-même qui m'a appelé chez moi un soir, à 11h le soir, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était à l'heure où on se couche normalement, là, tu sais. Fait que c'est ma femme qui répond au téléphone. Et puis, elle commence par répondre assez bêtement. Puis, à l'autre bout de la ligne, on lui dit... c'est le bureau du premier ministre. Monsieur Bourassa aimerait parler à M. Lehi. Je revois encore ma femme me tente piteusement combiner et me dire je pense que c'est important.
Des affaires d'État qui viennent vous rejoindre.
Toujours est-il que, à compter de 11h jusqu'à à peu près, quoi, je vous raconte pas d'histoire, il m'a tenu presque une heure et demie au téléphone. Et pour m'expliquer toute l'importance. Qu'avait Hydro-Québec pour l'économie québécoise et combien il était imprudent et même mal avisé d'en privatiser ne serait-ce que 10%. Alors, ça m'avait saisi puis il m'avait vraiment convaincu avec son argumentation. Et très amusant parce qu'aujourd'hui même, dans la presse, dans la page réservée aux opinions, il y avait une intervention de Claude Castonguay, qui se trouve à être mon ancien patron du temps où j'étais vice-président à la Laurentienne, au début des années 80, de 83 à 86. Et Castonguay revient justement sur cette proposition-là de privatiser en partie
En quelle année?
Quoi?
En quelle année?
Moi, c'était Castonguay. En 80.
Oui, mais Castonguay.
Castonguay, c'est aujourd'hui qui propose ça.
Ah ouais, OK, parfait.
Aujourd'hui même.
Ouais?
Oui. Oh. Et puis, il reprend exactement la proposition que j'avais faite en 93.
OK, parfait.
OK. Mais sauf que, je veux dire, d'abord, ça tombe un peu à plat dans le contexte actuel. Et puis, ensuite, il faut voir que, tu sais, une des choses que Bourassa m'avait fait comprendre, c'est quel serait l'intérêt de tu sais, on parlait, on pourrait briser le monopole, diviser ça en production, transport, distribution, OK? Puis former des compagnies. Mais c'est quoi, quel avantage? Si on privatise une partie, disons, de la distribution, les gens qui vont acheter ça, ben, ils vont payer un prix important. Et puis, donc, ils n'achèteront pas ça cash, tu comprends? Ils vont emprunter. Et puis, bon, les coûts d'emprunt à l'heure actuelle sont très bas, mais ils ne resteront pas très bas éternellement.
À l'époque, ils n'étaient pas bas.
OK, ils n'étaient pas bas du tout. Et, mais eux, ils vont devoir rentabiliser leur investissement sur un certain nombre d'années.
C'est ça.
OK, puis ça risque d'être un temps court, hein? Ils vont vouloir...
C'est ça. Donc, on financerait leur choix d'une façon. On n'a pas le service de leur dette.
D'abord, c'est ça. Alors qu'à l'heure actuelle, on n'a pas à le supporter. C'est compris dans nos tarifs d'électricité. Et donc, s'il fallait qu'on partage Hydro-Québec en partie, comme ça, on se trouverait automatiquement à devoir subir rapidement des tarifs beaucoup plus élevés.
Ben oui. Vous savez que vous venez d'évoquer deux personnes là, qui réagissaient à la possibilité de privatisation.
Oui.
Et là, j'étais à un moment donné au restaurant, il arrive à côté de moi, monsieur André Caillé.
Oui.
Et là, ça, c'est autour de 2008.
Oui.
Fait que j'ai demandé, peux-tu vous déranger avec une question?
Oui. Tu lui as posé quelle question?
J'ai posé la question, c'est est-ce que c'est possible qu'on puisse envisager que Hydro-Québec soit privatisé en partie? Il dit, le problème, c'est qu'il y a trop de résistance.
et il y a encore de la résistance aujourd'hui. Mais là, Caillé, il t'avait fait tout un aveu. Ouais. Parce que c'est à partir de, comme je vous dis, à partir de 95, là, qu'il va y avoir, 93, qu'il va y avoir un mouvement pour tranquillement là, permettre au privé de reprendre une partie des activités d'Hydro-Québec.
Oui, oui.
Et ça, tout ça, ça va se faire en douce. Hein?
Oui. Déjà commencé.
Mais oui,
mais
ben
là,
oui.
On va en parler tantôt.
Oui, on va
mais
en parler.
Mais là, j'aimerais ça identifier à quel moment la doctrine Bourassa, mettons, le sage Bourassa-Lévesque, là, sur le contrôle vraiment d'Hydro-Québec, et puis qu'il arrive un moment où ça... Oups, il y a quelque chose, il y a une porte qui est ouverte. Là. Quelqu'un a ouvert une porte à quelque part.
OK. Alors, c'est pendant la campagne électorale de 1994. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'est Daniel Johnson Fiske qui a pris les commandes, hein, à la suite
de Bourassa.
De Bourassa. Et Bourassa s'était objecté, lui, beaucoup à l'implication de Paul Desmarais dans les affaires du Québec. Parce que Paul Desmarais faisait longtemps qu'il était intéressé. Là. Sa compagnie, elle ne s'appelle pas Power Corporation pour rien.
Ouais.
Okay? Lui, la Power, il la voulait.
On peut dire qu'il était sur le thème de l'énergie.
Il était sur le thème de la puissance.
Difficile de cacher.
OK. Et il faut savoir aussi que Power Corporation, c'était, quand il l'a acquis, des restants des compagnies d'électricité qui avaient été nationalisées par Hydro-Québec. Donc, lui, il estimait là, qu'il y avait, il y avait une certaine revanche à prendre sur l'histoire. OK? Et ça, d'ailleurs, ça explique les conflits qui étaient assez évidents, apparents même, entre René Lévesque et Paul Desmarais. OK? On se souviendra là, qu'il y avait eu un grand sommet, là, puis que Desmarais puis Lévesque s'étaient retrouvés nez à nez, ou plutôt face à face. Et puis qu'il ne s'était pas dit des choses agréables, ça, c'est en 1977, si ma mémoire est bonne,
okay.
ce sommet-là. Alors, pendant ces années-là, Desmarais cherche par tous les moyens à s'infiltrer dans le gouvernement du Québec, et c'est lorsque Parizeau cède le pouvoir avec l'arrivée de Daniel Johnson, qui était un ancien secrétaire... vice-président et secrétaire de Power Corporation, qu'il va commencer tranquillement à s'infiltrer. Et il faut quand même le dire, enfin, sous Parizeau, ça a été un an, hein, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais là arrive Lucien Bouchard au pouvoir.
Lucien Bouchard.
Ouais. Et là, Lucien Bouchard, ce que les gens savent malheureusement pas suffisamment, c'est l'étroitesse des liens qu'il avait déjà à cette époque-là avec...
avec mon oncle Paul.
Avec mon oncle Paul, voilà. Paul Desmarais. En fait, Paul Desmarais et Lucien Bouchard se sont rencontrés au sommet de 1985, le fameux sommet irlandais où le Mulroney avait reçu Reagan au Château Frontenac. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviendront de ces événements-là. Ils avaient dansé la gigue, c'était beau. Parmi les invités à la réception, il y avait Brian Mulroney, puis il y avait Lucien Bouchard. Et Brian Mulroney, qui connaissait très bien les deux, et qui avait déjà décidé d'envoyer Lucien Bouchard à Paris l'été d'après, en avait profité pour placer Lucien Bouchard à la même table que Paul Desmarais. Et donc, ils avaient fait rencontre, ils s'étaient rencontrés. Et bien sûr, par la suite, alors que Lucien Bouchard était ambassadeur à Paris, ben, Paul Desmarais avait pu profiter des largesses de l'ambassade du Canada à Paris pour développer ses affaires. C'était l'époque où il développait beaucoup ses affaires en Europe. Alors voilà comment ça s'est passé. Et à partir de quand Bouchard arrive au pouvoir, après 1996, donc en 1996, peu de temps après, on nomme un nouveau PDG à Hydro-Québec, et c'est André Caillé. Alors là, les gens, encore une fois, ne se souviennent peut-être pas de ce fait-là, mais André Caillé, lui, il venait d'où? Il venait de Gaz Métro. Et Gaz Métro, dès ce moment-là, était déjà une entreprise qui avait été en partie privatisée et dans le capital de laquelle était présent à travers toute une série d'écrans, pour pas que ça paraisse, évidemment, l'Empire des Marais. Et avec des compagnies gazières de l'Ouest, là, Enbridge, entre autres. Et donc, il y avait Gaz Métro. Et le président du conseil de Gaz Métro, à l'époque, pendant que Caillé était là, il s'appelait Robert Tessier. Il est aujourd'hui président du conseil d'administration de la Caisse de dépôt. Et à l'époque, Robert Tessier siégeait, en même temps qu'il était président du conseil d'administration de Gaz Métro, il était aussi membre du conseil d'administration de plusieurs compagnies de la société financière Power. Donc, on voit les liens, là, déjà, voilà, qui est très, très étroit, qui se tressaient entre l'Empire Power et Hydro-Québec. Alors, on nomme Caillé à la présidente d'Hydro-Québec. Et puis, ben, Caillé, on le sait, on l'a vu quel rôle il a joué après avoir quitté Hydro-Québec. Il est devenu l'homme du... Ouais.
Mais il n'est pas venu seul.
Des pétrolières et gazières. Non, il est venu avec plusieurs personnes.
Il est venu avec... Vandal.
Avec Thierry Vandal, ouais, bien sûr, qui deviendra, qui prendra sa succession par la suite.
Un cadre du Parti libéral.
Et voilà, en plus. Alors, on voit de suite, là...
Ça prend des qualifications. Oh,
ben, oui, bien sûr. Hein. On voit comment, si on veut, le loup est entré dans la bergerie. OK? Et,
par la porte Bouchard.
Par la porte Bouchard. C'est important de souligner ça. Il y a encore des gens qui s'imaginent que Bouchard est un enfant de cœur et puis héros. Je vous prie de me croire que dans mon livre à moi, c'est pas un héros, c'est un zéro.
Oui, parce qu'on peut souligner que durant l'année de pouvoir de Jacques Parizeau, il y a eu une vaste consultation sur l'orientation stratégique énergétique du Québec avec Hydro-Québec. Et là, on se projetait vers le 21e siècle.
C'est ça.
Là, on était dans les énergies renouvelables, on était dans les mégawatts, etc.
Ça.
On était dans la préservation de l'énergie. On avait toute une stratégie. Et puis là, tout ça... C'est une vaste consultation, puis il y avait eu un large consensus là-dessus. Et puis là, quand Bouchard va arriver, poux, à la poubelle.
À la poubelle.
Et là, filière gaz. Et là, il y a quelque chose d'incompatible entre deux types d'énergie-là.
C'est là qu'à un moment donné, là, il va se passer des choses bizarres.
Très bizarres.
Au sujet d'Anticosti. OK? Et puis, évidemment, à cause de l'expertise de Caillé dans le domaine... du gaz, ben coudonc, ça a l'air tout naturel de confier SOQUIP à Hydro-Québec. OK. Et puis, SOQUIP, Hydro-Québec se retrouve dans une espèce de filière monstre, là. OK, qui n'est non plus simplement hydroélectricité, mais qui
est dans les ressources. Là.
Qui est dans les ressources, mais les ressources énergétiques, donc comprenant le gaz, l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire, bref, tout. Et c'est ça qui va faire que, tranquillement, là, pendant les années 2000, on va se mettre à glisser, puis aussi, on va faire des choses assez bizarres. Là, on va créer des filiales, dont une qui s'appelle TM4, dans laquelle on va envoyer des développements technologiques qui ont été réalisés par l'Hydro-Québec et qui vont être partagés tranquillement avec toutes sortes de monde qu'on ne connaît pas, là.
Oh oui, mais
qu'on ne connaît pas. Je dis ça là, à la blague, on les connaît tous. Mais tous des gens là, qui, d'un seul coup, apparaissent dans le décor et qui revendiquent une partie de la tarte. Et puis qu'ils l'obtiennent bien souvent pour rien du tout.
Ben oui, parce que à cette époque-là, j'ai connu un ingénieur d'Hydro-Québec qui avait fait le briefing de l'ensemble des licences, patentes, tout ce qui avait été développé.
Des brevets,
OK, de l'Hydro-Québec. Il y en avait 1400. Mm-hmm. Là-dedans, il y avait des choses incroyables.
Comme le moteur.
C'est ça. Et comme batterie,
etc. Ah, les batteries, c'est ça.
C'est ça. Et donc là, il y avait toute la plateforme automobile, oui, électrique, oui, 20 ans en avance, oui, OK, etc. Et donc là, c'est un portefeuille, ça. Et puis pour arriver à une certaine étape dans le développement, ça prend des investissements. Puis là, quand les autres arrivent, ben finalement,
ben alors
c'est devenu comme une dépense, puis il fallait plus continuer
ces
dépenses.
Une des premières qui est apparue là, c'est en fait un joint venture de Dassault et Eulier, et qui se sont comme par hasard offerts pour développer le moteur roue, et puis avec en vue un contrat important avec La Poste en France, qui était censée acheter bon. Alors, ce contrat-là, malheureusement, ne s'est jamais matérialisé. Je ne suis pas familier avec tous les détails pour vous donner les raisons. Mais toujours est-il que Dassault, à un moment donné, a revendu à Hydro-Québec sa part dans TM4. C'est assez bizre parce que on ne sait pas trop combien qu'elle avait payé au départ, mais elle avait sûrement pas payé cher. Voilà. Puis d'un seul coup, on est rendu qu'on la paye pour sortir. C'est quoi ce folie-là? Alors, Dassault, il faut savoir que Dassault, ce n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est une entreprise très, très grosse qui s'est surtout spécialisée dans le domaine de l'aéronautique au départ et des missiles, en fait, des matériels de défense, là. OK? L'armement.
L'armement, oui.
Voilà, c'est comme ça qu'on dit ça.
L'industrie de l'armement.
Dans les salons français. OK, l'industrie de l'armement. Alors, évidemment, c'est des gens qui sont habitués à conclure de gros contrats avec le secteur public. Et d'où, évidemment, la filière qui s'ouvrait à eux, là, à La Poste, en France, qui, à ce moment-là, déjà commençait à être privatisé. Et donc, on voit là comment il y a toutes sortes de gens là qui se sont infiltrés. Je vous donne le cas de TM4, mais il y en a eu plein d'autres. Puis, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que Hydro-Québec a développé, ou pouvait développer, avait ce qu'il fallait pour développer d'importantes filières technologiques. Et puis que ces filières, le développement de ces filières-là nous a échappé. Il s'est fondu dans le décor. Et puis aujourd'hui, on apprend toutes sortes de choses, comme aujourd'hui, ces derniers mois, on apprenait que Hydro-Québec était associé à un important développement à Lac, en France. Hein. Ça n'a pas fait, vous n'avez pas vu ça dans les journaux au Québec. Hein. Mais par contre, si vous lisez les journaux français, puis en particulier un qui s'appelle Les Échos de la Bourse, vous allez trouver cette information-là. Et à partir de quelques recoupements, vous pourrez là, découvrir le poteau rose. Mais il y a des gens qui donnent, hein, littéralement, pour des considérations qui sont minimes, des développements technologiques au Québec. Et l'industrialisation subséquente va être laissée à des entreprises du secteur privé à large surface financière. Qu'en termes élégants, là, parlez, ces choses-là sont dites.
Mais vous parlez de, c'est les batteries, ça?
C'est ça.
OK, donc ces batteries-là, ce qu'on apprend...
C'est qu'elles ont...
En lisant l'information, c'est que... Tout le développement, il y a une personne qui était à l'interne de l'Hydro-Québec au moment où ça se développe et où on la retrouve l'autre côté recevant le paquet dans l'entreprise privée.
Alors, on va même mettre des noms là-dessus. Tu comprends-tu? On va mettre des noms. C'est important de mettre des noms. Les noms, c'est embêtant. T'sais. Le gars, après ça, il est obligé de marcher... les fesses serrées un peu.
Ils sont pas mal sans gêne, je trouve.
OK, c'est épouvantable. Alors, figurez-vous qu'il y a, au sein d'Hydro-Québec, au niveau de la haute direction, un vice-président des technologies qui s'appelle M. Élie Saheb, excusez-moi. Et, comme par hasard, comme si le hasard fait si bien les choses, M. Saheb, il a obtenu une reconnaissance, un prix... en France, qui lui a été remis par, tiens-toi bien, quelqu'un de, un ancien dirigeant de Dassault Aviation. OK. Et puis, quand j'ai découvert ça, moi, je me suis dit, c'est quoi cette folie-là? OK, alors là, j'ai commencé à pitonner sur... Ah, puis ensuite, au bas du document... Parce qu'il y a une annonce qui a été faite par un communiqué sur Hydro-Québec, mais ce n'est pas ça vraiment le communiqué d'Hydro-Québec qui est vraiment très intéressant. C'est le communiqué de l'organisme qui lui avait attribué le prix en France. Okay? Au bas, complètement au bas de ce communiqué-là, on découvre que M. Saheb est également un consultant scientifique pour EDF.
Oh!
Quelle affaire!
Des deux côtés du pont.
Hein? OK.
C'est bon, ça.
Et puis, EDF, qui est actionnaire dans EDF? Figure-toi donc.
Il y a des moments où il négocie avec lui-même.
Qui est actionnaire dans
EDF?
L'Empire Parizeau. Par l'entremise de toutes sortes d'écrans, là, à la radio, là, disons que ça ne s'explique pas tellement.
Ah, c'est ça.
Les liens sont là. Et donc, on a une opération là, qui est connue en France, mais qui est inconnue au Québec, et qui nous montre comment on se fait déposséder, la dépossession tranquille, c'est ça, des retombées économique d'un développement technologique d'ici.
C'est ça.
Alors, pour quelles raisons ces batteries-là ne seront-elles pas construites au Québec?
Combien d'emplois pour le
200 emplois, j'ai lu, dans
des emplois payants.
Des emplois extrêmement bien rémunérés.
Puis c'est toutes des filières de développement par le
suite. Eh oui.
C'est incroyable.
Alors, c'est invraisemblable. Okay. Et ensuite, en passant, je vous signale ça, très intéressant parce que le nom de Élie Saheb, vice-président aux technologies de l'Hydro-Québec, on le trouve également sur le fameux contrat entre Hydro-Québec et Petrolia.
au moment où ils cèdent, ils bradent des droits pétroliers et gaziers, etc.
C'est ça.
OK.
Alors, tu sais, quand on sait que Laurent Dassault siège au conseil d'administration de Power Corporation, et puis qu'on sait que Michel Plessis-Bélair, le vice-président du conseil d'administration de Power Corporation, siégeait jusqu'à tout récemment au conseil d'administration d'Hydro-Québec, ben là, coudonc, à un moment donné... là.
Le courant passe.
Ils sont habitués, là. On est sur le 735 kilovolts, merci, là.
Ouais. Là, on est dans les nationales.
On est dans les
grosses passages d'arondelles.
Ouais. OK. Alors, c'est plus un petit fil électrique branché sur un compteur, là. Là, c'est vraiment, là, on est en train de vider. Puis alors, il faut comprendre que en même temps qu'on vide le Hydro-Québec de son contenu technologique, on le vide également du personnel qui est associé au développement. Alors, on est en train d'affaiblir Hydro-Québec à l'heure actuelle d'une façon absolument éhontée et on est en train de paver la voie à la privatisation. Regarde, puis, ça va loin. Regardez, à l'heure actuelle, il y a 4 sièges au conseil d'administration d'Hydro-Québec qui ne sont pas pourvus. OK? C'est pas normal. Pas dans une entreprise de la taille d'Hydro-Québec. OK? Et puis, on a appris récemment que Thierry Vandal s'en allait et que Marie-Jo Nadeau aussi s'en allait, la vice-présidente Affaires corporatives.
Les deux qui contrôlent l'information.
Allez voir mon article, dernier article sur...
Le titre, c'est quoi?
Je ne me souviens plus quel titre que j'y avais donné. Mais c'est pas compliqué. Allez sur les chroniques de Vigile et puis...
Vous êtes encore là.
Encore là. Puis, sur cliquez sur l'onglet chronique en haut, puis vous allez trouver dans les premières chroniques mon article sur...
Les départs mystérieux.
C'est ça, oui, c'est ça. C'était les départs mystérieux. Quatre départs mystérieux à Hydro-Québec.
Mais dans le cas de ceux qui avaient l'expertise pétrole et gaz qui sont partis du côté de Petrolia, c'est comme si des gens que vous engagez partent avec les meubles par la porte d'en arrière.
Mais oui, il faut savoir que...
C'est ça, parce que c'est Hydro-Québec qui avait payé 10
même
millions.
Même de Petrolia, c'était un ancien de Sokip.
Mais oui, c'est ça. Donc, ils partent avec les meubles.
Et voilà.
OK? Puis c'est des valeurs qui ont été créées avec
la puis eux, ils ont ce qu'on appelle en jargon financier de l'information privilégiée.
Ben, qui ont obtenu grâce à des investissements importants.
C'est ça.
OK? Et là, ils partent avec ces investissements-là.
Et la connaissance qui va avec.
À coup nul.
Et puis, ils ont les connaissances qui vont avec.
Vous saviez, quand ils ont cédé les droits d'exploration sur Anticosti, il y avait déjà 10 millions d'investis en exploration sur le site. La première tranche des investissements qu'avait prévu le gouvernement Landry en 2002, qui était de 330 millions sur 10 ans, pour savoir exactement répertorier c'est quoi le possible
potentiel pétrolier du Québec.
Peu importe si on est pour ou contre, au moins savoir, y en a-tu, y en a-tu pas?
Moi, je t'avoue franchement que ça, c'est une affaire là, que j'ai toujours... ça se trouve que j'ai l'expérience de l'industrie pétrolière. J'ai travaillé dans deux grandes pétrolières. J'ai même travaillé chez Sokip dans les années 70. Donc, j'ai une idée assez juste là, du portrait de l'industrie pétrolière. Il faut être bien conscient, même déjà à l'époque, que même à Sokip, en 1978, je me souviens que le vice-président exploration, qui s'appelait Jacques Plante, qui était un ancien de Shell, m'avait expliqué là, qu'est-ce qu'il fallait comprendre sur la géologie du Québec et... ce qu'on pouvait espérer pouvoir en sortir. Le meilleur, à l'époque, c'était éventuellement des réservoirs pour du stockage de gaz dans la région du Bic à Rimouski, là. OK? C'est ce qu'on espérait. On connaissait l'histoire des affleurements de pétrole, mais évidemment, à l'époque, on ne pratiquait pas encore la technique du forage...
Horizontal,
la fracturation horizontale. On creusait de façon verticale, et puis le potentiel en vertical était extrêmement limité. Alors, bien sûr, ça s'est peut-être un peu amélioré, mais faut comprendre une chose, c'est qu'on sera jamais un gros joueur. On sera toujours un joueur extrêmement marginal. Et compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui sur les problèmes associés à l'exploration pétrolière, que ce soit à cause des technologies de fracturation ou bien à cause tout simplement... Des gaz à effet de serre et tout le reste.
Il y a un problème d'acceptabilité présentement.
Il y a un méchant problème d'acceptabilité sociale,
de plus en
surtout
plus.
Dans une région à potentiel essentiellement touristique comme celui de Gaspé. Là. C'est quand même ridicule, aller foutre des derricks de pétrole dans ce coin-là, puis allumer des torchères en pleine nuit. C'est de la folie furieuse. Pour un rendement qui va être marginal.
Mais il y a une mystique du pétrole. Mais
ouais,
on n'a pas juste le dossier du pétrole.
Bon, mais moi, tu sais, j'étais de l'autre bord de la mystique, je peux t'en parler.
Ouais.
OK? Et je peux vous dire que sur le plan environnemental, c'est désastreux. C'est un désastre. Et c'est un désastre qui est d'autant plus inacceptable dans une province comme le Québec, parce qu'on est encore une province. OK?
Dans l'État du Québec.
Pour le moment. Dans l'État du Québec, c'est inacceptable compte tenu de la richesse qu'on a en matière hydroélectrique. Et je prends bien la peine de dire hydroélectrique parce qu'il y a des petits malins, dont Caillé, qui ont essayé de nous vendre des turbines à gaz.
On va y venir tantôt.
Et puis qui nous coûte à l'heure actuelle 1,2 milliard de dollars par année pour garder ces maudites turbines-là qui appartiennent à TransCanada inopérantes.
Oui, mais on va arriver à
parce
ça.
Parce qu'on avait acheté leur production d'avance.
C'est ça. Mais comment on arrive à ça? C'est parce que il y avait vers 2004, Jean Charest est arrivé, puis il est arrivé avec la privatisation, parce que la réingénierie, c'était extraordinaire, puis la privatisation, c'était extraordinaire. Donc, il y avait comme une douzaine de centrales au gaz à mettre en place. Donc, on a eu la fameuse lutte des citoyens contre le surroi, oui, qui a fait dérailler ça. Et là, donc, ça l'a amené à un changement de stratégie de Charest qui a imposé à Hydro-Québec, le plan de 2006. Là, ils nous ont vendu un PowerPoint extraordinaire sur le 21e siècle, etc., pour endormir. Mais là, c'est un public reportage pour le Parti libéral et le gouvernement payé avec l'argent du public. Mais qu'est-ce que ça cachait? Ça cachait la privatisation à la pièce des filières d'Hydro-Québec. C'est ça que ça
bien
cachait.
Oui, bien sûr.
Et là, c'est là qu'ils vont réussir à passer une centrale au gaz.
Ouais.
Et celle-là, c'est Bécancourt.
Ouais.
Okay? Et là, cette histoire-là, c'est un scandale incroyable sur lequel j'ai jamais lu un chroniqueur, un éditorialiste, rien, zap, zéro. Et
écoutez, c'est pas rien, là.
Non, non, non.
1,2 milliard de dollars.
Un instant, on est à 1,1.
Par an.
On est à 1,6 en 2016. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ça, c'est des pénalités payées pour ne pas qu'elles fonctionnent.
Pendant combien de temps qu'on va les payer?
C'est un contrat qui porte sur le long terme. Et à terme, s'ils n'ont pas réactivé, à ce moment-là, ils sont rendus à 3 milliards. On a 2 méga-hôpitaux envoyé à TransCanada Énergie de Calgary parce que ça va pas bien leur affaire.
Ouais.
Ils sont très pauvres.
Alors voyez-vous, c'est ça. Nous,
c'est ça. Ça, là, puis ça, ces processus décisionnels-là, faut interroger ça.
Ça, là, écoutez, c'est pas compliqué, c'est un siphonnage. T'sais,
c'est un transfert d'argent des poches de tous les Québécois.
Eux, ils veulent nous envoyer leur pétrole.
Nous, on nous envoie notre argent.
Puis nous, ils nous siphonnent notre argent. Parce que c'est ça. C'est un immense siphon électronique,
okay,
parce que ça se fait par transfert bancaire, des fonds du Québec qui s'en vont en Alberta.
Je vous rappelle...
Au rythme de 1,2 milliard cette année, 1,6 milliard...
Ça va être rendu à 1,6
en 2016.
En 2016, ça, c'est des chiffres qui sont publiés, ces chiffres-là.
Ben oui, et puis personne ne dit rien. Il
n'y
a pas
quoi?
Un mot, il n'y a pas un éditorial décrit là-dessus.
Il est pire encore, OK?
Ouais.
C'est que... j'ai appris ça par Québécois Média, Michel Morin qui suit le dossier, qui fait un travail extraordinaire sur Hydro-Québec. Lui, vraiment. Et là, il nous apprend quoi? Il nous apprend qu'au moment où il signe avec le privé TransCanada Énergie, Hydro-Québec possède une centrale au mazout qu'ils peuvent convertir pour 129 millions de dollars.
Pour des pinottes. Comparativement parlant.
Ben ouais. C'est incroyable.
Parce qu'il faut comprendre que dans l'industrie pétrolière, enfin dans l'industrie des ressources énergétiques, l'unité de compte, c'est le milliard. On parle jamais en bas d'un milliard. C'était déjà même le cas dans mon temps, quand j'ai commencé chez SO en 1975. L'unité de compte, c'était déjà le milliard. Okay? Une raffinerie, c'est pas compliqué. À Montréal-Est, une raffinerie, à l'époque, c'était un milliard et demi. Aujourd'hui, on n'en construit plus, mais une raffinerie de 300-400 000 barils par jour, là, on parle nécessairement d'une opération de à peu près 4 milliards à 5 milliards de dollars.
Dans le processus de privatisation, parce que là, on voit que si on a une photo de 2012 du CA, la fameuse photo de 2012 du CA, il y a 18 des 21 membres qui sont des gros donateurs du Parti libéral. Là-dessus, il y a le maire Vaillancourt.
Ah.
OK, non, le maire Vaillancourt et un certain monsieur Lagacé. Hein?
Oui.
En parler un petit peu, ces deux-là?
Ça, Lagacé c'est avec deux S.
Oui, oui, c'est très
OK, alors le monsieur Lagacé en question est un...
Il n'est plus là présentement.
Non, il n'est plus là.
Et pour des bonnes raisons.
Il faut voir dans quelles circonstances. À un moment donné, moi, j'ai obtenu l'information à l'effet que le Lagacé en question était poursuivi en France pour, tenez-vous bien, abus de biens sociaux. Puis pas pour une petite somme. On parlait de, si ma mémoire,
50 millions d'euros.
50 millions d'euros, là, multipliez ça par 1,40 $, hein, ça fait 90 millions de dollars, pas loin.
Ben ouais, ça fait 70.
Non, 1,40?
Oui.
OK, t'es meilleur que moi en calcul mental. OK, 70 millions de tu sais, c'est quand même pas rien, là. Abus de biens sociaux, donc, c'est une fraude, ça. Et là, il est là, tranquillement, il siège au conseil d'administration d'Hydro-Québec.
Toujours accusé.
Toujours, avec les accusations pendantes contre lui. Alors, on écrit, moi j'écris un article sur Vigile, et puis Michel Morin en prend connaissance, parce que bon, il faut quand même conscient d'une chose, là, les journalistes suivent quand même un peu ce qui se raconte sur Vigile. Et puis, il prend le téléphone, puis il appelle tout de suite Hydro-Québec.
Il aurait relaté ça dans son article, hein?
C'est ça, il avait rappelé ça dans son article.
Quand on dit ça, c'est bon, ça.
C'est drôle.
C'est incroyable.
Alors, et puis, il appelle le matin. Ah, oui, Lagacé, il est là. Puis, il rappelle l'après-midi, Lagacé, il n'était plus là. Alors, voilà le genre de pouvoir qu'on peut avoir quand on se met.
Ouais.
À projeter la lumière.
Ouais, hein?
Simplement ça. À braquer la lumière sur des situations qui sont, disons, on va le dire gentiment, délicates.
Ouais. Mais il y en a un autre qui est sauté aussi, Plessis Bellaire, et puis bon dans quelles circonstances?
Plessis Bellaire, ça c'est drôle. C'est, imaginez que le 12, c'était le 12 novembre.
Le 12 novembre.
OK. Sur la plage Facebook de Pierre-Carl Péladeau, Monsieur Plessis Bellaire se fait interpeller par Pierre-Carl Péladeau, qui s'interroge sur les conflits d'intérêts dans lesquels il se trouve en étant membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec, alors que Power Corporation se trouve à être un très gros joueur dans le domaine de l'énergie, avec des activités dans Suez Environnement, GDF Suez, et indirectement dans EDF. OK? Et première chose qu'on sait, là, quelques jours plus tard, ben,
il disparaît en douce.
Ben oui, en douce, là, il disparaît. Là.
C'est là que le journaliste cherche à savoir, il est-tu disparu après le 12?
Alors, imaginez.
Alors là, c'est incroyable.
Alors, Pierre-Carl Péladeau a lancé son interrogation
le
12 novembre. Et puis, on apprend, c'est encore Michel Morin de TVA qui a fait le travail, on apprend qu'effectivement, comme par hasard, Michel Plessis Bellaire a quitté le conseil d'administration de Hydro-Québec le 11
octobre. Ah oui, oh. Mais pour avoir cette date-là, Michel Morin a dû insister. OK. Et c'est le président du CA, le nouveau, Michael
Penner, qui lui a répondu.
Qui lui a répondu, parce que la madame, probablement, ne voulait pas mettre sa crédibilité là-dessus, parce qu'il n'y a aucune pièce écrite qui a été produite aux journalistes pour dire « on a sa lettre de démission » ou « on a son courriel, au moins
». Alors là
c'est incroyable,
ce Michael Penner-là, là, franchement, depuis qu'il est là, moi, il ne cesse de m'intriguer. Et là, en fouillant un peu encore, hein, c'est rien de tel comme de fouiller, avec une collaboratrice, on a découvert que Michael Penner, il est associé en affaires.
Pas encore.
Le nom de sa compagnie, c'est une compagnie qui s'appelle Bonneterie Richelieu. C'est une compagnie privée, il n'est même pas coté en bourse, le monsieur.
Il n'y a pas de CA non plus.
Il n'y a pas de CA, lui, il fonctionne. Puis là, il se retrouve à diriger le CA de la plus grosse entreprise au Québec.
Exactement.
Okay?
Ça.
Il est qualifié. Il n'y a aucune expérience pour faire ce job-là.
Oui, mais il est qualifié.
Il est qualifié en fusion-acquisition.
Non, mais il est qualifié, non. C'était celui qui appuyait Couillard à la course à la
chiffrée. Ah, ben c'est ça, ben lui, c'est ça.
Ça prend une qualification libérale pour avoir accès à...
Voyons,
bon, monsieur, là, hey.
Voilà. Bon, excuse. des fois, j'en manque.
OK.
OK. Alors, on se retrouve dans cette situation-là, là, de Michael... Puis là, quand on se met à gratter encore autour de Michael Penner, là, on trouve plein d'affaires incroyables. Il y a un associé en affaires, Michael Penner, dans Bonneterie Richelieu. C'est un certain monsieur Infantino.
OK.
OK, Infantino, qui est originaire de Montréal-Nord, qui a déjà été conseiller dans ce coin-là.
On parle toujours de l'Hydro-Québec.
Oui, 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 oui.
Parce
que
vous me parlez de Bonneterie, là.
Ben non, mais Bonneterie Richelieu, c'est le nom de la compagnie de Penner. Mais le plus étrange, c'est que la fille de M. Infantino a un poste cadre chez Hydro-Québec.
Ah!
C'est donc comique, cette
Le courant passe toujours.
Oui, je pense que c'est dans les ressources humaines et les finances. En tout cas, je ne sais pas trop le lien entre les ressources humaines et financières.
Les ressources humaines, c'est pour placer les pions.
Voilà, voilà, voilà.
C'est très utile au poste décisionnel.
Alors, vous vous rendez compte, là, dans quel merdier on est rendu, c'était épouvantable. Bon, alors nous voilà de retour. Bon, on va leur faire le dossier Hydro-Québec, là, parce que
là, on va leur faire encore un peu, mais après la pause.
Après la pause,
on va aborder la... Parce que les gens... comprennent pas qu'on a commencé à privatiser Hydro-Québec à la pièce.
Et, oui. Là, et à l'insu de tout le monde.
À l'insu de tout le monde, et qu'il y a un coût à ça.
Bien sûr.
Et que finalement, au final, là, ça va être un transfert de milliards de dollars des poches des Québécois vers les amis du régime.
Oui.
Hein? Là où le courant passe.
Puis, ils ne payent rien, eux.
Non, non, non. C'est ça. Alors, il y a... parmi les filières, on parlait de la centrale au gaz, ça, c'est une qui ont privatisé, mais il y a les éoliennes, il y a les mini-centrales.
Alors, regardez, dans les éoliennes, là, vous allez retrouver encore une fois, à plusieurs reprises, le nom de EDF. Et puis, bon, ben, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, là, les liens qu'il y a entre...
Parce que les gens, les médias présentent, puis les commentateurs, les éoliennes, c'est ça qui fait que l'Hydro-Québec paye cher. C'est pas la filière éolienne qui pose le problème, c'est les contrats, les termes des contrats qui ont été signés avec le privé à des prix qui sont gonflés, et c'est ça qui...
Oui, on les subventionne.
Non, on lui fait carrément un cadeau, là.
Ben oui.
Bon, c'est un cadeau, ça, là. Okay?
Ben oui.
C'est ça. Alors, dans les...
c'est quoi? C'est 8 sous du kilowattheure?
Non, quoi? C'est ceux qui... Tout ce qu'ils ont signé en haut de 10 cents de kilowattheure sur ces filières-là, ça coûte 500 millions par année à Hydro-Québec. Ça, c'est un cadeau, là.
Okay? Ben oui.
Et ça représente, pour compenser, une augmentation de tarif de 5 %. OK? Cette année, OK?
Autrement dit, là, ce qu'on est en train de vous dire, là, écoutez bien ça, ça vaut la peine, que toutes les augmentations de tarifs qu'on vous impose, c'est pour donner des cadeaux aux petits amis.
C'est exactement ça. Et donc, puis c'est pas des pinottes, là, OK? Les éoliennes...
Ça coûte 500 millions, certainement pas.
Les éoliennes, là, en 2021... Oui. OK, en 2021, ça va coûter 1 milliard 200 millions. Okay. Des poches.
Des contribuables.
Des actionnaires.
Des actionnaires. Oui, t'as raison.
Des actionnaires.
C'est vrai, on est des actionnaires.
C'est ça, OK? Alors donc, ça n'a plus d'allure, là.
Non, non. Et puis, alors, il y a les petites centrales.
Puis, regardez, présentement, on est en 2015, OK?
Oui.
Là, ça coûte 800 millions. Pour de l'électricité achetée à des prix gonflés aux amis.
Okay? Alors, il faut que vous compreniez le subterfuge, car il s'agit d'un subterfuge, qu'ils emploient pour vendre leur salade. Et ils le font en créant des appétits au niveau régional. Et ils incitent, ils convainquent des élus locaux que c'est des instruments qui vont servir au développement régional. Et le gouvernement tombe dans le panneau.
Toute la politique d'Hydro-Québec concernant les éoliennes, j'ai encore écouté Vandal.
Ouais, ouais, ouais.
Il a dit, c'est toutes des commandes politiques.
Exactement.
OK? C'est tout. Lui, il veut se décharger de ça.
Ben oui, mais il a raison, parce qu'il sait que sa responsabilité personnelle est engagée.
Ben oui, c'est ça.
Et de la même façon qu'il a dit que sur les centrales au gaz, c'était aussi une commande politique.
Exact. Et donc, là, en 2027, c'est pas tellement loin, c'est dans 12 ans, ils vont avoir 17 milliards.
Tu sais, moi, la formation d'avocat, ça sert des fois à quelque chose. Si Thierry Vandal prend la peine de vouloir se décharger de la responsabilité de certaines décisions, c'est parce qu'il s'est fait poser des questions.
certainement. L'UPAC est à l'intérieur.
Ben, c'est, ça, 2015, c'est ça que je voulais que tu dises.
Ben oui, en 2015, oui. L'UPAC a quelques dossiers prioritaires, dont Hydro-Québec.
Et Hydro-Québec, okay. Ils sont sur le cas.
C'est ça.
Alors, quand vous voyez disparaître Thierry Vandal et que vous le voyez le faire en se déchargeant du plus fort qu'il peut de toutes les responsabilités.
Il n'est pas parti seul, hein?
Ben non, il part pas seul, hein? Il y a Marie-Josée Nadeau qui part avec lui.
Puis là. Un autre.
Oui, un autre.
Qui s'occupait des compteurs intelligents.
Des compteurs intelligents, oui.
C'est un autre milliard, ça, pour ces petits.
Moi, j'ai toujours appelé les compteurs prétendument intelligents, ouais. Parce que moi, je les trouve pas si intelligents.
Fait que là, ce qu'on a comme modèle d'affaires, présentement, ouais, Hydro-Québec, ouais. Je vais vous donner trois chiffres, OK?
OK.
Donc, les achats d'électricité au privé, c'est près de 11 cents. Les ventes à l'exportation, écoutez bien le modèle d'affaires, 4 cents et demi.
Oui.
Puis les clients payent 8,3 cents. OK? Alors, vous avez un modèle d'affaires, là. Vous achetez à gros prix, vous vendez à petit prix. Bon, ça va bien? Passez-vous à la banque?
Non.
Ça n'a pas d'allure.
Non, c'est
ça, c'est une dépossession. Faut-tu que cette compagnie-là soit extraordinaire pour produire autant de profits que 300 000 entreprises, puis pouvoir donner des cadeaux comme ça à hauteur d'un milliard par année aux amis de l'origine?
Alors, ça, c'est la richesse que certains voudraient qu'on se départisse.
Ben oui, mais c'est ça.
Alors, écoutez, c'est tellement une grosse vache à lait, Hydro-Québec,
ben, je vais vous dire.
Qu'à l'heure actuelle, là, il y en a tout le monde qui essaie d'en grappiller des bouts à droite et à gauche.
Ben là, ça va être plus que des bouts, parce que regardez ce qui s'en vient avec le gouvernement Couillard et l'Institut économique de Montréal, qui ont toutes fait des propositions pour privatiser Hydro-Québec.
Ouais.
OK? Et quand, au mois d'avril, il a pris le pouvoir, immédiatement, mon Marquette de l'Institut économique est sorti pour dire « Oui, la privatisation d'Hydro-Québec! » Là, l'autre est obligé d'intervenir le lendemain, comme Caillé me disait.
Ouais.
Il va avoir de la résistance. Ça se peut. Fait que je vais vous citer Couillard. C'est important.
Oui, vas-y,
okay?
Homo.
Ce n'est pas quelque chose qu'on va vouloir faire tout de suite. Ça, c'est en avril 2015.
C'est vrai.
Faire tout de suite.
Non, en avril 2014.
2014, oui,
c'est
excusez,
ça.
On n'est pas rendu là. OK, parfait. Okay. C'est ça, exactement, 2014. Et donc, ça, c'est sa déclaration. Et là,
Vous avez bien noté, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir faire tout de suite. Mais dans six mois, un an, dans deux ans, peut-être.
Le temps de vous endormir comme ça.
Et voilà.
OK, c'est ça.
Alors, à l'heure actuelle, là, avec ce qui se passe, qu'on vous a raconté tout à l'heure, là, à propos de les développements industriels auxquels vont donner lieu les investissements d'Hydro-Québec en Europe. Moi, j'ai rien contre la France, hein, j'y suis né, mais je veux dire, je suis aussi québécois.
Ah ouais,
et puis, je veux dire, lorsqu'on parle de développement économique, on parle de nos intérêts à nous, et puis il faut savoir où sont nos intérêts.
Ben oui.
Mais mes intérêts et les intérêts des Québécois, ils sont pas en France. Ils sont, malgré toute l'amitié qu'on peut avoir pour la France et les Français, nos intérêts à nous, ils sont au Québec, et puis faut d'abord voir à nos intérêts. Surtout lorsque on a un gouvernement d'Olibrius, comme celui qu'on a.
Olibrius.
Oui, des Olibrius.
OK.
Qui sont en train, là, de nous convaincre qu'on est dans une situation épouvantable et puis qu'ils font couper, qu'ils coupent dans les centres de petite enfance, qu'ils coupent n'importe où, n'importe comment, aveuglément, et qui imposent essentiellement, uniquement pour des considérations idéologiques.
Écoutez,
moi, le cœur me lève.
OK, mais aujourd'hui même, Hydro-Québec publie son bilan. OK?
Ouais.
Son 3 milliards 300 millions de profits.
Ouais.
OK? Il y a une augmentation de la dividende pour le gouvernement.
Ouais.
Mais si on ajouterait le milliard, là.
Oui. On n'a plus de déficit. Il n'y en aurait pas de déficit. On serait même en surplus. Vous vous rendez compte? Si on n'avait pas donné des cadeaux à droite, à gauche, on aurait des surplus. C'est quand même le bout de la chenoute, là.
Non, c'est ça. Donc, c'était un peu un survol de l'Hydro-Québec.
De la situation d'Hydro-Québec.
C'est ça.
Bon, moi, quand je suis rendu que ça me... Ça me brûle.
Mais vous savez que dans le cas du dossier du fameux bordel informatique sur lequel Québécois en Média fait aussi le bureau d'enquête, il est sur le cas, OK? Et là, il rapporte qu'il y a un regroupement de syndicats, de sociétés civiles, tout ça, qui ont fait créé une espèce de comité de vigilance.
Ben, ça en prend un pour Hydro-Québec, puis ça presse.
J'espère que vous allez en parler dans votre texte.
Certainement.
Vous allez lancer l'appel. On va être des premiers au Québec, ici, sur Radio Info Cité.
Voilà.
Il faut défendre l'intégrité de nos institutions. Et puis, si on n'est pas capable de le faire...
Et puis, ça passe en premier lieu. Écoutez, c'est pas compliqué. On n'a rien de plus précieux qu'Hydro-Québec.
C'est ça.
Alors, si on perd Hydro-Québec, on se perd.
Oui, oui. Mais si on n'est pas capable de défendre ça, on n'a aucune crédibilité pour la suite de l'histoire avec un projet majeur.
Aucune d'aucune sorte.
Ben oui. C'est pas compliqué, parce que j'ai déjà parlé de ça avec des gens qui étaient dans les groupes fervents indépendantistes. Puis ils m'ont dit, c'est un dossier provincial, ça. C'est pas l'indépendance. Je me suis fait dire ça. Je ne vous dirais pas un nom.
Non, bien, okay? C'est honteux.
Par charité chrétienne.
Honteux. Ne pas comprendre
l'importance de ça.
De ça. Mettre chez nous, c'est ça. Être indépendant, c'est ça.
Méchant levier, l'Hydro-Québec. Là.
C'est le plus gros.
Ah ouais. Puis on comprend, juste pour faire, pour boucler la boucle, là, que l'Hydro-Québec, c'est le territoire.
Hein? À part ça, parce que c'est grâce à Hydro-Québec qu'on a pu s'installer solidement sur le territoire et en prendre le contrôle effectif.
Ben oui, c'est ça.
Parce que en droit international, quand vient le moment de se faire reconnaître, tout est question d'effectivité.
C'est ça.
Est-ce que vous contrôlez votre territoire? Est-ce que vous êtes capable de lever vos impôts? Est-ce que vous êtes capable de protéger votre population? Et est-ce que vous êtes capable de défendre vos frontières? C'est tout. C'est les quatre éléments. C'est Jacques-Yvan Morin qui m'a enseigné ça à mon cours de droit international en 1972.
Ça fait que ceux qui ne voient pas le lien...
À la faculté de droit, ceux qui ne voient pas le lien, là,
entre
l'Hydro-Québec, ils ont comme des petits problèmes.
C'est ça. Ils sont dans le pays rêvé.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est la situation qu'on vient de vous résumer en y mettant toute la fougue et la passion dont on est capable.
Il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas étalés, là, parce que ça aurait fait un peu lourd, mais il y en a assez de morceaux.
Le portrait qu'on vient de vous présenter,
c'est des pièces du puzzle, là.
Aïe, aïe.
Quand on les met ensemble, on a une idée du portrait général qui se trouve à être que le régime libéral a entrepris des stratagèmes de dépossession systématique du bien public.